Samedi 30 juin 2012, il est 16h30, nous sommes à Marseille, sur la place du Séminaire, à quelques pas de la Major et du quartier du Panier, pour le démarrage de ce travelling radio qui va nous conduire, chemin faisant, jusqu'au MUCEM, Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Un musée du futur, ou un futur musée, puisqu'il est encore en chantier, mais qui se dévoile ce week-end pour quelques visiteurs qui en avant-première vont pouvoir explorer les lieux, les espaces d'exposition et d'accueil qui ne seront opérationnels que pour l'année capitale, je crois, au printemps 2013. Musée national, il est la troisième incarnation d'un musée consacré à la société, après le musée d'ethnographie, puis le musée des arts et traditions populaires. Désormais à Marseille et tourné vers la Méditerranée, c'est donc bien une nouvelle vie, un nouveau programme muséal qui se dessine. On en parlera tout à l'heure avec le directeur du MUCEM et ses collaborateurs qui nous accueilleront à l'entrée des lieux. Depuis la ville vers ce nouveau pôle culturel, c'est ce que nous vous proposons pour cette balade radiophonique, ce travelling radio, dont je vous rappelle en deux mots le dispositif, un micro sur une perche pour capter nos conversations, un émetteur-récepteur qui le relie à une enceinte, qui permet au public de suivre nos échanges tout en marchant avec nous. Entre les deux, un enregistreur pour capter nos voix et le son de la ville autour de nous et permettre de les rediffuser sur les ondes de la grenouille. Émettre, recevoir, enregistrer et diffuser, toutes les fonctions de la radio réunies dans ce dispositif ultra léger et donc mobile. Et puisque nous sommes mobiles, mettons-nous en route. Travelling MUCEM, c'est parti. Tout au long de ce travelling, de nombreux invités viendront nous éclairer sur ce qu'ils pensent être le rôle et la place d'un musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Mais pour m'accompagner tout au long de ce parcours, Cécile Dumoulin, responsable des publics pour le MUCEM. Bonjour Cécile.
Bonjour Xavier.
On va discuter ensemble dans un instant du ou des publics visés et de ce que ce musée met en œuvre pour les attirer. Mais puisqu'on est parti du quartier du Panier, je voudrais proposer à Maurice Vinson, qui est le fondateur et directeur du Théâtre de l'Anche, d'être notre premier interlocuteur pour ce plateau radio ambulant. Bonjour Maurice.
Bonjour.
Content de t'avoir avec nous.
Mais moi
Maurice,
aussi.
On quitte le chevet de la Major et ses coupoles néo-byzantines, un bateau amarré au loin sur lequel il est écrit « Méditerranée ». On se dirige vers le Fort Saint-Jean, les pierres plates. On est en train de descendre l'escalier qui nous mène au quai de la Tourette. Maurice, des lieux que tu connais bien et depuis longtemps, des lieux en pleine mutation en ce moment. Comment est-ce que tu perçois et comment est-ce que tu vis ces transformations de ces quartiers du Panier et de la Joliette ?
La transformation du Panier, c'est pas trop difficile à vivre parce que ça se fait très lentement. Donc on n'a pas de bousculade. Ça fait quand même de nombreuses années que la rénovation du quartier a commencé et on le voit bouger petit à petit. On voit de nouveaux habitants s'installer, on voit des boutiques s'ouvrir, on voit la mentalité de la population de souche évoluer, changer, s'améliorer d'une certaine façon, parfois devenir un peu difficile sur d'autres plans, mais les choses bougent sans brutalité.
Qu'est-ce qui serait difficile dans ces mutations, ce que tu évoquais à demi-mot à l'instant ?
Je pense que ce qui peut paraître difficile, c'est qu'il y a une population du Panier qui est une population très traditionnelle, qui est là dans ce quartier depuis plusieurs générations. Et elle le voit parfois d'un mauvais œil, de nouveaux habitants venir s'installer. Donc il y a tout un travail d'approche à faire pour apprivoiser les gens et leur montrer que les nouveaux habitants ne sont pas des adversaires et qu'on peut très bien vivre avec eux. Mais bon, ça crée parfois un peu des frottements. Mais dans l'ensemble, les choses se passent quand même assez bien, d'autant plus que les nouveaux habitants prennent très vite l'habitude de vivre à la façon des gens du Panier.
D'autant que ce quartier aussi a 2600 ans d'histoire et de tradition d'accueil d'étrangers, puisque c'est le plus vieux quartier de la ville, et que c'est vraiment un quartier emblématique de la capacité de Marseille justement à agréger chaque jour de nouvelles populations de migrants qui arrivent de là, juste en face de nous, de là où se garent les bateaux.
Oui, ben, c'est le quartier, le panier est quand même le quartier de l'immigration depuis des siècles. Je veux dire, c'est là que les gens qui arrivent par la Méditerranée débarquent et c'est le premier endroit où ils mettent le pied. Alors beaucoup d'entre eux d'ailleurs décident de s'y installer en pensant que ce sera provisoire et ils restent toute leur vie et parfois même plusieurs générations après. Alors les groupes de population tournent, changent. Hein, et y a, c'est pas des étrangers, mais il y a les Corses quand même qui sont très nombreux au début du siècle, qui le sont beaucoup moins maintenant. Et puis après, il y a tous les Italiens, il y a des Espagnols, des Portugais. Et puis depuis quelques années, bien sûr, il y a l'immigration nord-africaine, il y a les Comoriens, il y a les Asiatiques. Enfin, c'est vrai que c'est un quartier très, très multiple au niveau des populations qui le font vivre.
Et ça rend d'autant plus important pour un musée national venant s'implanter ici, évidemment, d'être l'écho de cette multiculturalité historique dans cette ville. On est en train de longer les voûtes de la Major, un ensemble d'arcades qui constituent le soubassement de cette cathédrale, qui ont longtemps fait fonction d'entrepôt portuaire, je crois, puis ensuite plus ou moins de lieu de remisage pour certains services municipaux, et qui sont, je crois, promis dans un proche futur à devenir une galerie marchande. Alors, cette perspective de la capitale culturelle, elle attire évidemment bien des convoitises, bien des attentes. Et on a parfois un petit peu tendance à confondre culture et marchandisation de la culture. Sur cette question de la marchandisation, Maurice, un regard ?
Ah oui, alors sur un plan général, ça. Parce que, bon, on est quand même dans une société qui a petit à petit transformé la culture, enfin une partie de la culture, en objet de commerce, en objet de vente, en objet de spéculation aussi. Bon, alors c'est difficile d'en parler en quelques mots, parce que cette partie de la culture-là, c'est pas celle sur laquelle nous travaillons aussi bien le MUCEM que nous, le Théâtre de l'Anche, mais on y est confronté quotidiennement, et précisément avec l'arrivée de Marseille, capitale européenne de la culture, on s'aperçoit de toutes les ambitions et qui ne sont pas toujours des ambitions culturelles.
Alors le Théâtre de l'Anche que tu as fondé, que tu diriges encore aujourd'hui, est un petit théâtre, c'est un grand petit théâtre, mais c'est un petit théâtre en termes d'accueil, de capacité d'accueil du public. L'apparition de structures comme ce futur musée national dans le voisinage immédiat, est-ce que pour toi c'est un interlocuteur un peu inaccessible ou est-ce que ça te donne d'ores et déjà envie d'imaginer de possibles collaborations ?
C'est pas du tout un interlocuteur inaccessible, d'abord par le comportement qu'il a eu avec son équipe, qui a pris des contacts dès son arrivée avec l'ensemble des partenaires du quartier. C'est pas un interlocuteur inaccessible parce que déjà nous avons des propositions, nous avons envisagé des choses et bon, nous en discutons. Je veux dire, la taille de la structure n'est pas un problème en soi. Ça dépend de la volonté des équipes qui l'animent.
Alors Cécile Dumoulin, sur le lien entre le MUCEM et les structures culturelles alentour, le Théâtre de l'Anche, mais aussi d'autres, la Galerie Gourvenet-Cogor, on va tout à l'heure en discuter avec Didier Gourvenet-Cogor, son directeur, peut-être avec le FRAC, et d'autres structures encore qui apparaissent dans ce quartier. Cette relation au public d'un musée tout neuf, elle se pense en termes d'ouverture sur les structures existantes, j'imagine.
Tout à fait, mais avant même les structures, on peut dire que ce qui est très important pour le MUCEM, c'est cette connexion que nous allons créer avec la passerelle qui va très bientôt être construite. Et ça sera un moment historique, je pense même pour Marseille, entre le rempart du fort, donc l'ancienne porte royale qui va être ouverte, et puis le parvis de l'église Saint-Laurent, donc tout au bout du panier. Donc là, on va recréer une forme de continuité urbaine qui va permettre d'isoler beaucoup moins le fort Saint-Jean et le bâtiment du J4, donc le futur MUCEM, par rapport à la ville. Notre volonté, comme le montre vraiment symboliquement cette passerelle, c'est vraiment cette intégration dans la ville. Et preuve en est effectivement qu'avec Maurice, depuis 2 ans, d'abord j'en profite pour le remercier d'ailleurs, il nous accueille très 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 gentiment à la fête du panier. On a vraiment souhaité s'associer à cette manifestation tout à fait marseillaise et tout à fait sympathique pour commencer à créer des connexions, des liens et des discussions, des débats avec les habitants du Panier et plus généralement de Marseille. En ce qui concerne les liens avec les structures culturelles, bien évidemment, les théâtres, les autres musées aussi, hein, musée de la ville de Marseille, mais également le futur CEREM qui est notre plus proche voisin, la Fondation Regards de Provence qui s'installe dans l'ancienne consigne sanitaire de Pouillon, ou bien le nouveau FRAC. On est en train d'essayer de constituer d'ailleurs un quartier culturel Juliette J4, qui est un petit peu informel pour l'instant, mais qui nous aide en fait un petit peu à concevoir mieux notre offre et surtout à essayer d'être plus pertinent par rapport aux attentes des futurs publics, notamment par exemple sur l'ouverture en nocturne ou bien les horaires d'ouverture, les offres que nous allons proposer, la programmation même, pour qu'on soit tout à fait tous complémentaires et absolument pas redondants.
Alors, on arrive bientôt à la fin de ces voûtes de la Major, de cette galerie en soubassement de la cathédrale. On arrive en vue de cette consigne sanitaire construite par l'architecte Fernand Pouillon, que tu évoquais à l'instant, Cécile. Peut-être deux mots pour décrire ce bâtiment, modeste d'aspect, mais qu'heureusement, on a pu sauver de la démolition il y a quelques temps.
Oui, en fait, c'est vrai qu'il est tout à fait étonnant. La première fois que je l'ai visité, j'ai été surprise de retrouver à l'intérieur encore des installations et des machines, notamment pour nettoyer les vêtements, qui subsistent et qui, je crois, seront toujours présentées au public lors de l'ouverture du musée de la Fondation Regards de Provence. C'est donc le bâtiment qui servait, à partir des années 50, à accueillir en fait les migrants. Venus du monde entier et de toutes les rives de la Méditerranée notamment, à Marseille. Donc c'est un lieu symbolique très très fort et qui pour nous, musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, a un sens réel et donc avec lequel on compte vraiment construire des liens, des partenariats.
Sur notre droite en revanche, un autre grand chantier, un bateau là, qui est à quai et qui va partir peut-être en Corse, c'est le Méditerranée. Mais en tout cas, juste un petit peu avant, la promesse d'une grande galerie commerciale, galerie de la Méditerranée. Des galeries marchandes aux galeries tout court. Didier Gourvenec-Ogor, tu es directeur de la galerie du même nom. Elle est située, je crois, rue du Verger, pas très loin d'ici. C'est dans ce secteur Panier-Joliette. Alors, une concentration d'équipements culturels, théâtre, galerie, le FRAC, maintenant le MUCEM. Est-ce que tu as l'impression que ce quartier est en train de devenir un nouveau pôle culturel ? Et est-ce que ça crée du public, ça ? Est-ce que c'est intéressant pour une galerie comme la tienne ?
Évidemment. C'est vrai que c'est quelque chose, moi, que j'ai réfléchi dès l'implantation de la galerie, il y a 10 mois maintenant. Et le fait, effectivement, de se retrouver un peu dans ce triangle d'or entre le MUCEM et les musées qui sont autour, le FRAC et le CIRVA qui est le Centre International de Recherche sur le Verre et l'Art, qui n'est pas visitable pour le grand public, mais qui est quand même un lieu d'art contemporain assez majeur à Marseille. Le fait de se retrouver dans ce triangle d'or, il y avait cette idée d'une comparaison avec Yvon Lambert, qui au début des années 70 s'implante dans le Marais, à l'époque où il n'y a strictement rien. À l'époque où tout le monde lui dit mais c'est il faut rester rive gauche ou il faut aller vers Matignon, mais surtout pas rive droite, vers là. Et 2 ans plus tard, le centre Pompidou était inauguré et on sait ce qu'est devenu le Marais parisien aujourd'hui. Donc on est à Marseille, toutes les proportions sont gardées, mais clairement on est dans cette...
Je ne suis pas tout à fait sûr que le Panier ressemble jamais au Marais parisien.
Mais on ne sait jamais, peut-être que dans 20 ans, il y aura 2-3 autres galeries supplémentaires et un engouement supplémentaire aussi.
Maurice a l'air souriant et un peu dubitatif.
Non, pas dubitatif, moi je souhaite que ça évolue dans ce sens, il n'y a pas de doute. C'est vrai, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a le poids quand même dans ce quartier d'une population très très nombreuse qui n'a pas suffisamment de formation et de curiosité pour l'art en général, pour l'art contemporain en particulier. On le voit bien par la vieille charité. Je veux dire, les habitants du quartier sont très peu nombreux à visiter les expositions à la vieille charité. Il faut un gros travail d'action culturelle, ce qu'a fait par exemple Charlotte Bessoussan sur l'opération d'Hervasser, où elle a pu amener comme ça des gens du quartier à venir voir cette expo. Sinon, d'eux-mêmes, il y a un poids, quoi. C'est un peu lourd. Mais je veux dire, il ne faut pas désespérer pour autant. Hein.
peut-être ajouter Cécile. Que pour le MUSAM, effectivement, je rejoins tout à fait Maurice, on a commencé à travailler un petit peu avec le centre social Bossanc, par exemple, qui fait beaucoup de choses dans le quartier du Panier. Et on a cette mission, effectivement, qui pour nous est très importante, qui est à la fois éducative et sociale, d'accompagner des visiteurs qui sont des visiteurs néophytes, qui peut-être vont hésiter à franchir le seuil du musée. Et pour ça, on a une grande aide quand même, qui est tout simplement le bâtiment du Fort Saint-Jean. Parce que c'est vrai que ce bâtiment du Fort Saint-Jean, qui pour l'instant, qui est un des emblèmes de la ville de Marseille et qui n'a jamais été ouvert au public, va enfin pouvoir être ouvert avec des jardins méditerranéens en libre accès aux horaires d'ouverture du musée. Mais je le souligne parce que pour nous, symboliquement, c'est important et c'est une dimension à laquelle on tient. Effectivement, les visiteurs pourront rentrer librement dans les jardins du Fort Saint-Jean et descendre sur les pierres plates également de manière tout à fait libre. Donc sans passer, sans rentrer dans le musée forcément. Mais évidemment, notre ambition, notre intention, c'est de leur donner envie, en fait, au travers de cette visite assez finalement libre, de leur donner envie de rencontrer aussi le musée lui-même et de rentrer dans le musée lui-même.
Mais je crois en effet que ça peut être un beau trait d'union, parce que la curiosité de la population, dont je parlais tout à l'heure, pour le Fort Saint-Jean qui fait partie de ces traditions, va amener ces gens-là à y aller et il n'y aura comme pas à franchir pour entrer dans le musée.
Alors pour rentrer dans le musée, il y a aujourd'hui un bel embouteillage d'autocars. On va essayer de le franchir malgré tout. Oui, ça a l'air de se libérer devant, on va pouvoir passer. On parlait de mutations urbaines, de changements, d'évolution de la population de ce quartier. C'est sans doute intéressant que de nouveaux habitants viennent s'y installer et profitent de ces nouvelles offres culturelles. Mais Maurice, est-ce qu'il ne te semble pas que ça peut induire un risque de gentrification, finalement, et que cette population dont tu parlais tout à l'heure, qui a un petit peu peur de l'arrivée de ces nouveaux, elle a une forme de légitimité, et une légitimité économique, à vouloir rester dans ce quartier?
Tout à fait. Tous les risques sont là, hein, je veux dire, il ne faut pas se le cacher. En même temps, ça dépend la façon dont on fait les approches. Comme je le disais, les nouveaux habitants, qui n'arrivent quand même pas par centaines hein, toutes les années, sont accueillis en même temps que les anciens. Il y a la mairie de secteur, par exemple, fait une rencontre, des débats, des discussions avec eux, et ça les intègre beaucoup plus facilement. Mais évidemment, le danger, le risque, c'est que la population traditionnelle, la population de base, celle qui est dans ce quartier depuis, donc je le disais, plusieurs générations, n'ait l'impression qu'on veut la chasser. Je ne crois pas que ce soit l'intention de qui que ce soit, mais ça peut être ressenti et en effet, ça peut en effet poser des problèmes. Mais comme je le disais, le travail d'action sociale et d'action culturelle, s'il est bien mené, peut arrondir tous ces angles-là.
Alors, c'est notre volonté en tout cas, j'espère que ça sera comme ça, c'est ce qu'on souhaite.
Eva Chevalier est avec nous. Eva Chevalier, vous animez un collectif de bonjour. Vous animez un collectif de femmes dans ce quartier du Panier.
Oui, tout à fait.
Alors, ce que les habitants et les habitantes de ce quartier font remonter comme réflexion sur ces transformations urbaines et quelles sont vos attentes à l'égard de ce musée. Alors, on précise tout de suite que vous êtes, je crois, l'épouse de Denis Chevalier qu'on va rencontrer bientôt. Donc, un lien finalement très étroit, j'imagine, que vous allez tisser entre les habitantes de ce quartier et puis ce futur musée.
Oui, alors déjà pour préciser, le collectif de Femmes du Panier, c'est un collectif qu'on a créé en mars cette année, alors c'est tout récent. Et ça regroupe aujourd'hui une trentaine de femmes qui ont un commerce, un restaurant, un atelier, une galerie, ou qui sont artistes dans les quartiers. Elles habitent dans le panier, mais pas forcément toujours. Alors, comme ça, je ne veux pas me permettre à parler, en fait, au nom des habitants du panier, même si moi-même, j'en suis aussi une habitante du panier, mais plutôt des gens qui ont, en fait, essayé de faire vivre ce quartier, d'essayer d'améliorer l'image qui, malheureusement, n'est pas toujours très bonne de ce quartier, qui est quand même le cœur de Marseille, le quartier historique, et qui sont en contrepartie certainement aussi un bon relais pour les futurs musées, pour les musées qui existent déjà évidemment, parce qu'ils sont évidemment en première ligne de donner des indications, d'amener les gens à venir visiter le MUSEM. Et en fait, comme ça, j'espère en fait beaucoup que le Mucem va faire un peu un accueil, comment dirais-je, un peu privilégié aussi envers ces personnes-là qui sont finalement un relais de communication considérable.
Alors, on est en train de rentrer dans le chantier du Mucem, de passer devant ces architectures qui sont en construction, architecture de la légèreté avec ce Mucem, construit par Rudy Ricciotti et Roland Carta, avec sa résille en béton. Architecture de la légèreté aussi avec le CEREM de Stefano Boeri et son porte-à-faux vertigineux devant lequel nous passons en ce moment. Et puis derrière, architecture massive avec la masse du Fort Saint-Jean et derrière nous les masses arrondies, calipiges de la Major. C'est sans doute la photo souvenir que tous les touristes ramèneront de Marseille en 2013. Didier Gourvenec, ton regard sur cette architecture, ce paysage urbain, ce mélange d'architecture du 19e siècle, du 20e siècle et du 21e.
C'est totalement extraordinaire. C'est vraiment quelque chose qui manquait à Marseille, d'arriver aussi quand même dans le 21e siècle avec de la modernité, tout en respectant évidemment l'histoire de Marseille. Mais ce qu'a fait Rudy Ricciotti, il y a plusieurs mêmes architectes au total, mais c'est quelque chose effectivement qui restera. Vous parliez de carte postale, mais oui, toute cette partie du port, cette entrée dans Marseille par le port ou finalement par les terres, restera architecturalement très forte. Et je voudrais quand même juste revenir tout à l'heure sur dans les quartiers, la population. Sincèrement, ça commence à s'ouvrir de soi-même. On voit que les gens ont un intérêt bienveillant aux structures culturelles. Et moi, je le vis assez facilement, assez régulièrement à la galerie, où des gens, quand ils vont à la mosquée, ou des gens, passent par la galerie et visitent la galerie. Donc, il y a un engouement. Après, peut-être qu'ils auront plus de mal à pousser la porte d'un musée, mais il y a vraiment quelque chose qui se développe.
Est-ce que cette architecture, elle est pour toi pittoresque, au sens premier du mot, c'est-à-dire qu'elle incite à être peinte, finalement? Est-ce que peut-être un jour, tu auras dans ta galerie une toile qui représentera le CEREM ou le Mucem?
Pourquoi pas? Oui, ça peut tout à fait s'y prêter. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit avec un œil, en plus, avec tout le chantier qu'il y a autour, on n'arrive peut-être pas encore exactement à voir ce que ça va être, mais c'est vrai que le Mucem va être très entouré par l'eau, et donc avec un vrai respect pour l'histoire marseillaise.
De l'Europe à la Méditerranée, une histoire de civilisation au pluriel, un musée pour des publics au pluriel aussi. Cécile, tu travailles en ce moment, j'imagine, sur la relation au futur public du futur musée.
Oui.
Avec quels axes de travail? Comment est-ce que vous allez vous adresser à ceux qui n'ont pas forcément l'habitude ou même l'idée d'aller dans un musée?
Alors c'est vrai qu'une des problématiques à laquelle on se heurte un petit peu, c'est l'idée qu'on va ouvrir une année où Marseille-Provence sera capitale européenne de la culture. Donc une année durant laquelle, je pense, les publics touristiques vont être assez nombreux. Le risque qu'on court, c'est que peut-être les Marseillais se disent « Bon, moi je vais attendre pour y aller l'année d'après, etc. » Donc nous, notre souhait, c'est de montrer tout de suite aux Marseillais que ce lieu, il est d'abord pour eux. Aux Marseillais et aux gens de la région. C'est-à-dire qu'on est un musée, certes, on est un musée national à envergure internationale qui entend bien rayonner de manière internationale, mais avant tout, c'est cet ancrage territorial qui nous préoccupe, et justement parce qu'il n'est pas forcément évident du fait de la structure de la population, notamment dans le panier, du fait que les gens ne sont pas forcément habitués à aller dans les musées, ils n'ont peut-être pas envie d'y aller d'ailleurs. Donc c'est à nous de créer cette envie et ce lien, enfin en tout cas on se sent cette responsabilité et cette envie. Donc on essaye d'imaginer plusieurs choses. D'abord il y a effectivement le Fort Saint-Jean qui va être ouvert librement à la visite, et à l'intérieur du Fort Saint-Jean on trouvera des explications sur l'histoire du fort. Je crois que c'est assez attendu de la population d'avoir l'explication de l'histoire du fort, du lien entre l'histoire du fort et l'histoire de la ville, voilà. Et puis également un parcours autour des arts de la fête avec des marionnettes, des costumes de cirque, des accessoires de cirque. Donc un certain nombre d'éléments qui font partie des collections du Mucem et qui sont, on va dire, vraiment en prise avec la vie quotidienne. Donc qui peuvent être aussi, et ça c'est un point très important pour nous, très accessible et très attractif pour le public familial. On entend vraiment s'adresser beaucoup aux enfants pour montrer que c'est un musée qui est justement accessible à tous et que ça peut être un moment d'apprentissage, certes, mais aussi de loisirs, de partage d'une activité agréable en famille, avec dans toutes ses composantes, c'est-à-dire à la fois pour se promener, pique-niquer, manger un morceau, mais aussi, bien sûr, pour visiter une exposition, écouter un conte ou bien peut-être un concert, voilà, enfin tout ce qui est prévu dans le musée.
Un public familial souhaité donc, mais aussi j'imagine des liens étroits avec les secteurs de l'éducation et de la recherche sur lesquels j'imagine vous travaillez aussi en ce moment même à de futures collaborations, les collèges, les écoles, mais aussi l'université, la Maison méditerranéenne de sciences de l'homme.
Tout à fait. Alors on a un projet avec le Collège du Vieux-Port, donc qui est notre plus proche voisin en termes d'éducation nationale, puisqu'il est vraiment à quelques encablures du Fort Saint-Jean, qui est un projet en relation avec Alexandrie. Donc notre ambition, c'est de montrer pour l'ouverture du musée qu'on entend s'adresser aux collégiens et aux enfants les plus proches de nous, puisque c'est vraiment les collèges de proximité, et également à tous les élèves du bassin méditerranéen, ou en tout cas, qu'il y a cette idée aussi du dialogue entre les élèves eux-mêmes. Donc on va travailler pour ce partenariat particulier, en lien avec Alexandrie, en fait, et le Centre d'études Alexandrine, qui est un partenaire important pour nous. Voilà. Et puis en ce qui concerne la recherche, on est en train de créer un institut méditerranéen des métiers du patrimoine qui trouvera sa place dans nos murs, dans les murs du Fort Saint-Jean en particulier, avec des salles de cours, de séminaires, et qui sera en fait une émanation de l'Institut national du patrimoine en même temps que un centre de recherche lié au MUCEM.
Alors on est en train d'arriver juste en face de la porte d'entrée de ce futur MUCEM. La fameuse résille en béton de Rudy Ricciotti n'est pas encore complètement posée sur la façade. On la voit en pièces détachées, si on peut dire, sur le côté. Et on arrive en vue d'un drôle d'appareil photo qui est situé là. Alors peut-être si on peut s'approcher et juste dire deux mots à la personne qui s'en occupe. Ça s'appelle Photomobile. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la Photomobile ?
Je suis
ça, la Philippe Langlaire.
Exactement, oui.
Alors, qu'est-ce que c'est que la Photomobile ?
C'est une très bonne question et figurez-vous que j'ai été très embarrassé pour vous répondre parce que je suis arrivé il y a 3 minutes ou 4 minutes, mamie est là et j'ai pas eu le temps de me renseigner exactement.
Alors Cécile, c'est peut-être en direct, en deux mots, c'est quoi la Photomobile ?
Oui, voilà, désolé, effectivement, là il y a des
le personnel est pas
changement
encore
de personnel, voilà, c'est ça. Donc en fait, la Photomobile, c'est une, comme vous le voyez, une remorque. Sur laquelle est situé un studio photo en fait, avec donc notre photographe Paul Ladouze. Donc lui vous expliquerait très bien ce dont il s'agit, puisque c'est lui notre interlocuteur principal sur le projet. Donc en fait, il s'agit de, pendant un an, d'ici à l'ouverture du musée, de collecter des portraits de Marseillais, de personnes qui sont intéressées par ce projet,
avec un objet
qui représente leur lien à la Méditerranée.
Ah ben nous, on prendra une photo tout à l'heure avec un micro, parce que nous, c'est notre lien, finalement, avec la Méditerranée, notamment à travers cette émission, ce travelling radio que vous suivez en direct, ici, au MUCEM avec nous, ou bien que vous écouterez sur les ondes de Grenouille samedi prochain. On arrive à l'entrée du MUCEM. Je pense, Cécile, que normalement, on devrait y être accueilli. Bonjour.
Bonjour.
Bruno Suzarelli ?
Moi-même.
Enchanté.
Enchanté.
Heureux de découvrir avec vous votre musée. Je crois que vous êtes accompagné de Denis Chevalier, qui est
Denis Chevalier est ici.
Commissaire d'une des deux grandes expositions qui vont avoir lieu en 2013. C'est l'exposition Au bazar du genre. Thierry Fabre, je crois, devait être avec nous, mais a quelques obligations familiales.
Il n'a pas pu être là, malheureusement.
On salue Nil et le Petit Prince, qui sûrement vont très bien. Thierry Fabre est, lui, commissaire de l'exposition Le Noir et le Bleu. Et on devrait aussi rencontrer Zev Gourarier. Bonjour Zev, qui est directeur scientifique et culturel et conservateur général de ce musée. Je vous propose qu'on rentre tout de suite, qu'on aille se mettre un petit peu à l'ombre.
Absolument, bienvenue dans le MUCEM encore en chantier. Vous allez voir que c'est loin d'être fini, mais ça commence à prendre vraiment forme.
Alors Bruno Suzarelli, j'ai très brièvement tout à l'heure en introduction de ce travelling radio décrit ce nouveau musée comme un musée de société de l'Europe et de la Méditerranée, ce qu'elles sont et ce qu'elles produisent. et qu'il succédait au musée d'ethnographie et au musée des arts et traditions populaires avec une toute nouvelle approche muséale. En quoi ce musée se distingue de ses deux précédentes itérations, de ses deux prédécesseurs ?
Eh bien, le musée national des arts et traditions populaires, qui avait été créé, vous le savez, à la fin des années 30 à Paris, était vraiment un musée d'ethnographie française. Et ici, le MUCEM est un musée qui va s'intéresser aux civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, avec cette particularité qui est de voir l'Europe depuis la Méditerranée. Donc les questions de société, de civilisation contemporaine, mais avec aussi un éclairage ancien, un éclairage du côté de l'histoire, vont être évoquées depuis la Méditerranée, sans aucun esprit local, puisqu'on va regarder les choses aussi bien la Méditerranée que l'Europe, donc qui sont quelque part les prolongements de la Méditerranée, les relations entre la Méditerranée et le reste des continents qu'il aborde notamment.
Une géopolitique de la Méditerranée qui a beaucoup bougé ces derniers temps, est-ce que le musée va en rendre compte ? Est-ce que c'est un musée révolutionnaire ?
C'est un musée qui va être certainement révolutionnaire par son approche, en ce sens qu'il se veut plus qu'un musée traditionnel. C'est une véritable cité culturelle que nous sommes en train de construire. Non seulement on va y voir des œuvres, des objets, des expositions, comme dans tout musée, mais on va aussi, bien sûr, pouvoir assister à des débats, des conférences, des films, on apprendra à lire des archives filmiques, grâce par exemple à un partenariat que nous avons avec l'INA. On pourra assister à des spectacles de danse, de musique. Et nous avons pour cela un extraordinaire outil que sont à la fois le bâtiment du J4, construit par Rudy Ricciotti, et le Fort Saint-Jean.
Révolution politique, évolution sociétale, une des deux expos inaugurales du musée pour 2013 s'intitule « Au bazar du genre, nouvelle pratique, nouvelle représentation du genre en Méditerranée ». Denis Chevalier en est le commissaire général, on va peut-être le rejoindre, en même temps que l'on rentre dans l'espace du musée dans lequel il y a foule aujourd'hui, vous l'entendez, pour cette journée porte ouverte.
Absolument, nous avons le plaisir d'accueillir près de 4000 Marseillais sur deux jours qui se sont inscrits pour ces journées porte ouverte. Et là nous sommes dans le hall d'accueil du musée où des groupes attendent pour pouvoir avoir une visite en règle des espaces.
Je ne sais pas si nous sommes en règle, mais sans doute avec Denis Chevalier, on va arranger ça. Il est, je rappelle, le commissaire général de cette exposition qui est intitulée « Au bazar du genre ». Dans un bazar, on peut choisir et en général, on doit négocier un petit peu. C'est l'usage. Ce bazar du genre, il traite de comment évoluent les choix individuels et collectifs en termes de liberté publique, en termes de mixité, en termes de sexualité, et aussi comment on négocie avec des contextes culturels, sociaux et économiques. C'est à peu près ça, Denis Chevalier ?
C'est ça, c'est une exposition qui est basée, au somme toute, sur une approche comparatiste des différentes cultures européennes et méditerranéennes, et qui veut interroger les évolutions les plus récentes. Et finalement, nous sommes partis de cette idée, de cette impression assez forte, que en ce qui concerne le genre, en ce qui concerne l'ordre des sexes, les hiérarchies entre le masculin et le féminin, les choix de sexualité, eh bien, nous sommes en train de vivre, en quelque sorte, une révolution. J'en veux pour preuve, et il y en aura beaucoup d'autres preuves dans l'exposition, les profondes transformations démographiques auxquelles nous assistons de l'autre côté, sur l'autre rive de la Méditerranée, en face de nous, qui sont notamment le fait que si en 1964, par exemple en Algérie, les femmes se mariaient à 16 ou 17 ans, il y a donc 50 ans, aujourd'hui elles se marient à 32 ans. Si elles avaient en moyenne 6 à 7 enfants dans ces années-là, 50 ans plus tard, elles en ont plus que deux. Donc ça induit effectivement des transformations très profondes, des comportements, des valeurs, des remises en cause qui sont tout à fait fondamentales. Alors c'est une exposition qui veut questionner à partir de ces paradoxes. Les paradoxes, c'est effectivement qu'il y a de plus en plus de mouvements féministes qui revendiquent effectivement une certaine autonomie, une liberté.
Est-ce que vous êtes engagé à leur côté ? Je demandais tout à l'heure si le MUCEM était un musée révolutionnaire. Est-ce que cette exposition au bazar du genre, elle est quelque part une exposition engagée aux côtés des femmes, aux côtés des LGBT ?
Elle est complètement engagée aux côtés des mouvements, disons, qui visent à réformer ce qui ne va pas. Elle n'est pas, par contre, une exposition qui donne la parole, forcément, à des associations. Elle en parle, elle les évoque, elle les invite, le cas échéant, dans des manifestations qui vont avoir lieu en dehors de l'exposition à l'intérieur du musée, dans notre auditorium par exemple. Donc elle en fait part. Cependant, l'idée de notre exposition, c'est somme toute non pas forcément d'apporter des réponses, mais de permettre à chaque individu, à chaque citoyen de l'espace euroméditerranéen, d'avoir un certain nombre de repères pour mieux se poser les questions qui se posent aujourd'hui. Et ces questions, évidemment, elles sont très nombreuses.
Autre regard, avec le noir et le bleu, un rêve méditerranéen, une expo dont Thierry Fabre est le commissaire général, mais peut-être que Bruno Susarelli pourra nous en dire un mot, ou peut-être Zev, comme vous voulez. Ce rêve méditerranéen, il va de Napoléon qui, du haut de ses pyramides, projetait un rêve plutôt impérial sur cette Méditerranée, jusqu'à notre époque contemporaine, entre révolution et conservatisme en oscillation. Une exposition comme la précédente qui ne nie pas les tensions, au contraire, Bruno Susarelli, c'est une expo qui va au front, quelque part.
Oui, c'est une exposition qui n'hésite pas à affronter les vraies questions. Et Thierry Fabre a choisi en particulier, sur chacun des thèmes qu'il va traiter, de regarder, de donner la parole à la fois au point de vue de l'Europe, qui est souvent le point de vue du conquérant ou de celui qui croit apporter la civilisation, et le point de vue de l'autre côté. Et chacune des étapes de cette exposition, qui je crois se déroule en une douzaine de moments clés, permettra d'avoir une image et son contraire, une image et l'autre côté du miroir. Et c'est en cela qu'elle est évidemment tout à fait intéressante pour les visiteurs.
Zev Kourarier, une exposition dans laquelle artistes et auteurs produisent des récits sensibles de ce qui fait la civilisation et de ce qui la nie. Bruno Susarelli l'évoquait à l'instant, 12 étapes. Au milieu, la sixième s'intitule « Échange et cosmopolitisme ». Marseille, c'est une ville intrinsèquement cosmopolite ?
Alors, c'est vraiment un port de la Méditerranée au sens plein du terme. Et effectivement, comme tous les ports, elle a toujours vécu des immigrations. La légende de fondation de Marseille est déjà autour de cette idée d'immigration. Hein. Donc là, simplement, ce que on va, je pense, évoquer, c'est effectivement les tensions plus contemporaines, cette fois-ci, qu'il peut y avoir entre des mouvements centrifuges qui tendent à faire éclater les choses et à retourner vers les indépendances et des mouvements centripètes qui concentrent au contraire l'idée qu'il y a une seule Méditerranée.
Alors on l'entend, nous sommes en ce moment un petit peu à l'écart de la foule qui est dans la salle d'à côté et qui regarde, je crois, un certain nombre de vidéos, qui attend de visiter ce musée, du moins les salles qui sont déjà réalisées. On est en vue d'un magnifique paysage puisqu'on est là en face de l'horizon et cet horizon, c'est justement la Méditerranée. On parlait tout à l'heure de villes cosmopolites. Marseille est en lien avec ces villes, bien sûr. Marseille-Istanbul, Marseille-Alexandrie, Marseille-Beyrouth, Marseille-Alger.
Marseille-Alger a été l'objet d'une exposition il n'y a pas si longtemps encore, initiale de ce musée. Et donc effectivement, un des projets que nous avons de toutes les façons, ça va être d'organiser des rendez-vous avec ces villes de la Méditerranée. Mais ici, vous êtes là où il y aura effectivement la galerie de la Méditerranée et tout autour, il est prévu qu'on puisse entendre les sonorités, par exemple exactement là où vous êtes, des différentes villes qui sont regardées par le MUCEM de la Méditerranée dans la galerie de la Méditerranée.
Alors à cet endroit précis, nous sommes où ?
Là, vous me posez une colle.
Est-ce qu'on est à Beyrouth ? Est-ce qu'on est au Caire ? Est-ce qu'on est...
Là,
on est à Jérusalem.
Là, on doit être à Jérusalem.
On est au cœur du problème, alors. peut-être sur la partie de débat public qui est associée à cette exposition, le noir et le bleu. Je crois que Thierry Fabre a souhaité que cette exposition soit accompagnée de nombreux débats, de nombreux échanges avec le public. Le rôle d'un musée, c'est aussi de faire débat, de susciter le débat. C'est pas forcément d'être consensuel.
Oui, alors ça, c'est absolument notre conviction. Nous ne sommes pas là pour apporter des réponses définitives et pour avoir des certitudes absolues. Le rôle d'un musée comme d'une véritable institution culturelle, c'est de poser les questions, de les poser de manière juste, de les poser de manière équitable et de proposer des réponses. Un lieu comme le MUCEM, qui bénéficiera d'un magnifique auditorium de 325 places, va pouvoir organiser systématiquement des rencontres, des débats autour, bien sûr, des expositions, le noir et le bleu, mais aussi sur le bazar du genre et sur également l'exposition dont Zeev Gourarier est responsable pour la Galerie de la Méditerranée. Nous allons vraiment être un lieu de débat, d'ouverture à l'autre et, je l'espère, un lieu qui sera constamment vivant.
Alors, on a parlé de ces deux expositions temporaires qui auront lieu ici, au MUCEM, en 2013. Au Bazar du Genre, c'est de mai à décembre 2013. Le Noir et le Bleu, c'est de juin à décembre 2013. Mais Zeev Gourarier, on pourrait aussi parler évidemment des collections permanentes, des expositions permanentes de ce musée et de la mise en œuvre, de la mise en valeur de ces contenus. Dans quel espace ces collections seront-elles présentées, Zeev?
Qu'elles seront présentées. Première chose, ce n'est pas des expositions permanentes. J'ai un collègue qui disait qu'une exposition permanente, c'est par définition une exposition, une exposition permanente, une exposition temporaire qui a trop duré. Donc les expositions permanentes que nous prévoyons sont des expositions qui dureront au moins 3 ans. Voilà ce qui est important à retenir. Mais par contre, effectivement, nous sommes un musée des civilisations d'Europe et de Méditerranée, très centré aujourd'hui sur la Méditerranée. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est que la Méditerranée? Et donc, effectivement, nos collections et d'autres collections vont être mobilisées pour répondre à cette question. Quand on parle de la Méditerranée, de quoi parle-t-on?
Alors, on aura ici une magnifique boîte pour accueillir ces expositions, pour accueillir ces collections. Mais est-ce que les budgets de fonctionnement de ce musée permettront régulièrement d'accueillir de nouveaux objets? Au fond, un musée, il n'existe qu'à partir du moment où il est acquéreur de nouvelles collections, de nouveaux objets, de nouveaux domaines. Bruno?
Oui, bah, bien sûr. Je l'espère bien. Nous sommes un musée national et qui, par conséquent, dépendra essentiellement des financements que lui apportera l'État. En l'occurrence le ministère de la Culture, mais aussi de nos ressources propres qui seront apportées par à la fois le droit d'entrée et je l'espère, les excellentes relations que nous pourrons nouer avec des mécènes et des amis du musée. En tout cas, nous avons prévu dans nos budgets de fonctionnement de quoi organiser un nombre suffisant d'expositions chaque année, ainsi que toutes les activités annexes hors exposition qui donneront cette sensation qu'il se passe toujours quelque chose au MUCEM.
Je l'évoquais tout à l'heure avec Cécile, chargée des publics, mais je vous la repose aussi parce qu'elle est essentielle sur le lien de ce musée avec les secteurs de la recherche notamment. Ça n'est plus le musée d'ethnographie, mais j'imagine en lien avec les anthropologues, les ethnologues, avec les différents chercheurs dans le domaine des sciences humaines. Quelle place auront-ils dans ce musée? Comment seront-ils associés justement à ce travail muséal?
Alors je crois que Denis Chevalier pourra répondre assez précisément à cette question, mais simplement je tiens à dire que nous ne sommes pas un laboratoire du CNRS et nous ne sommes pas une équipe de chercheurs à proprement parler. Mais comme tout musée, nous avons vocation à participer à la recherche, à la nourrir et à définir des thèmes de recherche qui seront conduits par des chercheurs extérieurs avec lesquels nous aurons des partenariats. J'ai par exemple, il y a quelques mois, signé un accord de partenariat avec l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, qui possède des laboratoires à Marseille. Et nous avons des tas d'autres liens en cours avec notamment l'Université d'Aix-Marseille. Et Denis Chevalier est le responsable de ce secteur recherche et enseignement au sein du musée. Il peut donc vous en dire un peu plus.
Denis Chevalier.
Oui, un musée comme le nôtre, qui est un musée qui traite justement des sociétés d'aujourd'hui, se doit de se tenir au courant, au fond, de l'actualité, de la recherche, de la connaissance, de la constitution du savoir scientifique dans les différentes disciplines. Donc il faudra insister sur le fait que nous sommes bien un musée pluridisciplinaire, Certes, l'anthropologie a une place centrale, mais il y a bien entendu l'histoire, l'archéologie, les sciences de la géographie, de l'écologie, qui sont tout à fait essentielles. Alors, comme l'a dit Bruno, nous ne pouvons pas accueillir la totalité des spécialités, qu'il s'agisse de spécialités disciplinaires ou de spécialités géographiques. Et donc, la politique du MUCEM, c'est bien de contracter, de passer des conventions avec des institutions de recherche. On a parlé de l'École des hautes études en sciences sociales, de l'Université d'Aix-Marseille, avec qui, évidemment, nous avons des relations privilégiées, mais aussi avec d'autres entités scientifiques autour de la Méditerranée, dans d'autres pays. Le rôle de la recherche est donc fondamental, il est primordial, il est préalable à ce que l'on va montrer. Et je crois qu'une exposition, pour parler d'une exposition, c'est vraiment un travail d'équipe entre des scientifiques qui sont des chercheurs, qui font partie du comité scientifique ou qui vont intervenir sous des formes diverses, par exemple des gens qui vont venir passer un moment chez nous en tant que chercheurs accueillis, sous une forme ou sous une autre. Et puis, ce sont aussi d'autres compétences qui rentrent en compte. Mais la recherche est effectivement primordiale.
Peut-être pour conclure, et juste avant que le public qui nous a suivis tout au long de ce travelling radio puisse éventuellement poser quelques questions aux intervenants, juste en deux mots pour conclure, Zev, et pour nous resituer et nous donner envie de découvrir cette galerie de la Méditerranée.
Voilà, donc il y a deux espaces où seront présentées les collections du MUCEM, le Fort Saint-Jean, où on va quand même présenter le fond des collections, c'est sa vocation au Fort Saint-Jean, du MUCEM en particulier pendant 3 ans sur le thème de la fête. Et ici, donc, on traitera de ce qu'est la Méditerranée, en tous les cas d'une certaine vision de la Méditerranée, à travers l'idée que la Méditerranée est un bassin de civilisation. Et du coup, on va aborder 4 très particuliers de cette Méditerranée, qui sont les agricultures, bien sûr, mais un des traits très importants qui nous renvoie sur le contemporain, qui sont les monothéismes. Un trait essentiel qui est l'apport de la Méditerranée au reste du monde, qui est la citoyenneté. Et un trait moins connu, qui est la tendance des Méditerranéens à aimer les voyages depuis Gilgamesh jusqu'à aujourd'hui. Et on va effectivement terminer sous l'ouverture de la Méditerranée au reste du monde.
Beau programme à découvrir à partir de l'ouverture de ce musée. Est-ce que la date définitive est fixée, Bruno ?
Je ne vous la donnerai pas à un jour près, parce que nous espérons bien que le président de la République nous fera le plaisir de venir inaugurer ce musée. C'est donc évidemment lui qui choisira la date. Mais je dirais que nous serons prêts à la fin mai ou tout début juin. Et donc, je donne rendez-vous au public à la fin du printemps 2013.
Dans un petit peu moins d'un an. Merci au public qui nous a suivis jusqu'à présent. Et on va donc conclure maintenant ce travelling radio avec l'horizon méditerranéen devant nous. Les grues et les pelleteuses pour un temps éteintes, hors fonction. Le public qui est venu nombreux pour cette journée porte ouverte en préfiguration de l'ouverture de ce musée. Merci donc à tous les intervenants et à tous les participants de ce travelling radio, aux équipes du MUCEM avec qui nous avons collaboré pour le concevoir. Merci à l'équipe de réalisation qui m'accompagne, Nelly Fleischer, Pauline Gervais, Adrien Bukowski et le berger de notre petite troupe avec son bâton magique, Sébastien Gély, à la perche. Travelling MUCEM enregistré le samedi 30 juin 2012, c'est terminé maintenant, mais il est diffusé le samedi 7 juillet à 13h30 sur La Grenouille, 88.8 FM à Marseille et radiogrenouille.com pour ceux qui n'ont pas la chance d'être à Marseille et qui sont ailleurs, mais nous aimons les ailleurs. Merci à tous.